Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Alors on voudrait croire que le monde devient moins dur, moins compétitif, que la compassion, le care l'emporte enfin sur la course des rats que sont devenues nos sociétés. Certains voudraient même voir dans une disposition naturelle à l'empathie la source de la morale. Qu'en est-il ?
Oui, on est trop mal pour s'en rajouter, on est trop rien pour se déchirer, chantait France Gall. Et c'est vrai bien sûr, mais si vous avez lu La pitié dangereuse de Stefan Zweig, vous vous souvenez de l'avertissement lancé par le vieux médecin Condor au jeune lieutenant Anton Hofmiller. Celui-ci a suscité malgré lui une redoutable passion chez une jeune fille atteinte d'une maladie des centres nerveux qui la paralyse. « Je crois vous avoir averti, c'est un sentiment dangereux à double tranchant que la pitié. Celui qui ne sait pas s'en servir doit y renoncer. C'est seulement au début que la pitié, comme la morphine, est un bienfait pour le malade, un remède, un calmant. Mais elle devient un poison mortel quand on ne sait pas la doser. » Eh oui, la pitié peut être dangereuse. Mais voilà qu'on découvre que l'empathie pourrait bien l'être aussi. Pourtant, être contre l'empathie, c'est être contre les chatons, reconnaît le psychologue Paul Bloom. Personne ne saurait objecter aux chatons, ils sont si mignons. Peu après sa première élection à la présidence des États-Unis, Barack Obama avait conquis le cœur de l'Amérique en disant publiquement à une jeune fille « Il n'y a pas assez d'empathie dans notre monde aujourd'hui, et c'est ta génération qui doit changer ça ». Eh bien, c'est un mauvais conseil, selon Paul Bloom, car si l'empathie est probablement naturelle, elle n'est pas forcément la meilleure conseillère. Il plaide, lui, pour une compassion rationnelle. Les éducateurs, parents en particulier, doivent éviter l'empathie envers les enfants dont ils ont la charge, sinon ils sont incapables d'imposer la discipline et les frustrations qui sont nécessaires à leur développement. Mais plus grave, l'empathie peut nous faire agir de manière injuste. Et notre psychologue de citer l'expérience suivante. On donne à chaque participant une certaine somme d'argent en l'invitant à en donner le pourcentage qu'il désire à des personnes qui restent anonymes et ne sont connues que par un numéro. Puis, on divise les cobayes en deux groupes. Au premier, on communique les numéros avant qu'ils décident de leur don. Les seconds doivent décider du montant de leur don avant de se voir communiquer les numéros des bénéficiaires. Alors le premier groupe, celui qui connaît au moins les numéros, aura donné en moyenne 60% de plus que le second qui ne savait absolument pas à qui il donnait. Conclusion, même lorsque le bénéficiaire ne nous est connu qu'à travers un simple numéro, eh bien nous commençons à éprouver envers notre semblable de l'empathie. Ce que redoute Paul Bloom, dont le livre s'appelle « Against Empathy, the Case for Rational Compassion », ce que redoute Paul Bloom, c'est ce qu'il appelle l'empathie émotionnelle. C'est elle qui nous soulève d'une juste indignation devant le massacre des bébés phoques, alors que le traitement réservé aux poissons sortis des filets nous indiffère. Les animaux qui ont de grands yeux nous émeuvent parce qu'ils nous rappellent nos propres enfants, mais les poissons, froids, visqueux et incapables de crier, nous laissent indifférents. Pourtant, ils souffrent. L'empathie émotionnelle, c'est celle qui nous pousse à chercher à éprouver en nous-mêmes la souffrance de l'autre. Or, porter secours exige de garder la tête froide. L'empathie nous pousse à aider en priorité aussi ceux que nous désignent les projecteurs de l'actualité, au détriment de détresses moins visibles. L'empathie comporte un biais moral qui nous pousse à manifester davantage de solidarité envers les personnes qui nous ressemblent, parce que nous pouvons nous identifier à elles. Dans les sociétés où les différences ethniques font l'objet d'une valorisation particulière, il devient plus difficile de maintenir un système de protection sociale efficace. Peter Singer, célèbre professeur de bioéthique australien, résume le problème en une phrase. « L'empathie nous rend plus gentils envers les gens avec lesquels nous sympathisons. » Aussi, nous peut-elle pousser à agir de manière injuste. Il y a des infortunes qui ne suscitent pas notre empathie et qui mériteraient pourtant.
La revue française, Brice, pour le coup, Sciences humaines, consacre le dossier de son numéro de juin à l'empathie. Qu'est-ce qu'on apprend là-dedans?
Beaucoup de choses. Et pour commencer, par le début, que le mot en français est de mise en circulation toute récente. L'allemand connaît l'équivalent Einfühlung, ressenti de l'intérieur, depuis plus longtemps. Sa date d'apparition, 1873 pour être précis. Mais notre empathie a probablement été adaptée de l'anglais empathy, apparu au début du XXe siècle. Sciences humaines, toujours, la revue, nous apprend à distinguer l'empathie empathie cognitive, cette faculté qu'on a d'interpréter les gestes et les expressions d'autrui, à percevoir ses intentions, l'empathie affective qui consiste à percevoir les émotions d'autrui, et puis l'émotion compassionnelle. Rappelons que l'autisme se manifeste notamment par des déficiences dans ces trois domaines, surtout dans les deux premiers. Sciences humaines se penche aussi sur la fatigue compassionnelle, cette usure professionnelle qui touche les personnes travaillant dans le secteur des soins. Autre article pratique, un guide de l'éducation bienveillante, présenté comme un espèce de moyen terme entre éducation autoritaire et éducation permissive.
Merci beaucoup Brice Couturier. J'ai pas tout de suite compris où vous vouliez en venir avec vos histoires de chatons, mais finalement ça...
Non, parce que tout le monde aime les chatons et tout le monde aime l'empathie.
Absolument. Point trop d'empathie. Merci beaucoup Brice Couturier. Dans un très court instant, on retrouve la grande table avec Olivia Gesbert.